On y va là ?
Ouais,
allez, je commence ?
Vas-y.
Bon.
Yes, Orléans Massif !
Au croisement de la Beauce et de la Sologne, Orléans est une ville où il fait bon vivre.
Comment va mon illustre patient ?
Radio Campus 88.3.
Ça s'anime tout d'un coup, d'habitude y'a rien, c'est tout gris.
Musique, soleil, esprit festif et peut-être même une orgie dans la boue.
Très drôle.
Contestation. Répression.
Ouais, bah, j'ai connu un mec de droite une fois, il avait 10 fois plus de clash.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Bonsoir, bonsoir. Est-ce que ça. Allô, on m'entend ? Vous m'entendez ? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Le temps de mettre en place quelques petites choses sur la technique, sur la table. Bonsoir à vous. Donc, je vous disais, à toutes et tous, bienvenue pour dans un bâton rompu, magazine d'infos de Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, sur Radio Campus Orléans, Radio Campus Tours, on devrait dire. En studio avec moi ce soir, Victor. Salut Victor.
Bonsoir Hassan, bonsoir à toutes et à tous.
Et Steven.
Salut Hassan.
On devrait avoir Asma, mais elle s'excuse pour ce soir. Jusqu'à 20h, nous parlons de la dernière présidentielle aux États-Unis avec un papier, Steven. Ton point de vue sur ce qui s'est passé ?
Oui, un petit peu, une petite analyse plus que mon point de vue, mais oui, il y a un peu des deux.
Il y a un peu des deux. Et un papier de Victor sur le projet 2025.
Ah, c'est ça.
Si vous n'en avez pas entendu parler, montez le son, vous allez voir. Ça se passe pas très très loin d'ici. À bâton rompu, dans la deuxième partie d'émission, nous parlerons avec Augustin Abran, enseignant à l'Université d'Orléans, maître de conférences en histoire et civilisation des États-Unis. Il nous a fait une belle analyse tout à l'heure, hein, Victor.
Ah oui, on a eu quasiment 45 minutes d'interview qu'on
Absolument.
Vous a un peu écourté du coup. Mais
On écouterait une 25 minutes et ça sera vraiment très très bien. À bâton rompu, c'est parti.
À bâton rompu, sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours, tous les mardis de 19h à 20h.
Ouais, ce qu'on craignait est arrivé, donc l'agent orange est revenu à la Maison Blanche.
Quelle merde, ce truc.
Oui. Donald Trump a réussi son pari de revenir à la Maison Blanche 4 ans après en être parti, en faisant une campagne assez détestable, mais il a gagné, et plutôt largement.
Ouais, totalement. Oui. On a tous suivi les élections présidentielles avec beaucoup d'interrogations sur la logique américaine. Et on va pas se mentir, c'est quand même un pays de finito. Ah non, je suis désolé, mais peuple de dégénérés, quoi.
Je peux rien dire contre ça, parce que je le crois également.
Non, mais honnêtement, il y a une partie de moi qui veut s'arrêter à cette analyse et qui s'en satisfait très bien, tu vois. Mais on peut pas se le permettre. Hein. Déjà parce que on est exigeant avec nous-mêmes, hein, quand même. Exigence intellectuelle, hein, quand même. Il en faut un peu. Et aussi un peu de respect pour les vraies maladies mentales. Hein. On le redira jamais assez. Hein, mais... Et enfin, c'est problématique parce que ça véhicule l'idée que ce qui se passe là-bas est spécifique aux États-Unis, alors que c'est clairement pas le cas en fait. Mm-hmm. Hein, pour rappel, considérer un pays comme un rassemblement de malades mentaux, c'est le traitement en fait qui a été réservé au nazisme. Hein. Oui, alors je sais, là vous êtes en train de vous dire, ah ouais, direct le virage Mario Kart, il a pas le temps. Mais attendez, quand même, parce que la trumpisation du débat public aux États-Unis et la fascisation de l'Allemagne ont plus de points communs qu'on ne le pense, hein, ouais. Clairement. Les deux doctrines sont basées sur la force. Trump et Hitler partagent une vision du monde social basée sur la loi du plus fort. Pour défendre sa race ou son espace vital, ils utilisent le culte de la force qui est assimilé à la virilité. Et le virilisme violent s'est avéré un argument de campagne payant. Encore plus que lors des élections de 2016 et de 2020, Donald Trump a affiché une misogynie crasse à l'égard de son adversaire démocrate Kamala Harris. Vous vous souvenez de toutes les attaques, toutes les dégueulasseries qu'on répétera pas ici, mais voilà. Bon, facilement retrouvable. Kamala Harris, qui a d'ailleurs réalisé une campagne anti-Trump sans réel programme. C'est aussi ça qui explique sa défaite. Hein. Elle énonçait, rappelez-vous, moi ou le fascisme. Ok, mais toi, tu proposes quoi concrètement, en fait ? Ajouter qu'elle n'a pas non plus été claire sur la question palestinienne. Clairement, elle n'a pas fait une bonne campagne aussi. Ceci étant dit, la campagne de Trump était orientée contre le wokisme. Hein, le wokisme qui gangrène nos universités en France. Hein, on le connaît très bien, surtout à Radio Campus. Hein.
Oh oui.
Oui. Wokiste de fou, là. Contre, une campagne, donc, je disais, contre le wokisme, contre les droits des femmes, contre les droits des personnes LGBTQIA+. Il s'est vanté d'avoir permis la suppression du droit fédéral à l'avortement grâce à la Cour suprême, hein, une atteinte aux droits des femmes qui a bousculé le monde entier. Hein, je rappelle, c'est notamment à partir de ça que nous, on l'a inscrit dans la Constitution, comme liberté d'avoir recours à l'avortement, pas comme un droit, mais bon. Les Trumpistes l'ont assumé fièrement et sur un ton revanchard. Leur campagne était celle des hommes forts, affirmant leur virilité dominante, piétinant les faibles, à savoir les minorités et les femmes. Donc un pari gagnant, je vous disais, vous avez probablement vu ce chiffre tourner, 54% des hommes ont voté Trump et 54% des femmes ont voté Harris. Des chiffres qui ont par contre un peu moins circulé, ce sont ceux sur la frontière sociale. D'après les sondages à la sortie des urnes, Harris a obtenu un très bon résultat auprès des femmes blanches diplômées de l'enseignement supérieur, à peu près 60%. Mais les femmes blanches sans diplôme universitaire ont très majoritairement voté Trump, 62%. Le vote Trump est largement un vote blanc. Hein. Les femmes blanches ont préféré Trump à 52% et 59% des électeurs Trump étaient des hommes blancs. Les femmes noires restent le principal soutien de Kamala Harris avec plus de 90% des femmes noires qui ont voté pour Kamala.
Ça fait quand même 10% ça fait pour Trump.
Ouais,
hein.
Ça fait, mais voilà. Mais c'est, donc 10% de vraiment de...
Enfin, ouais, de millions et ouais, de millions de personnes. Voilà.
Et dans une moindre mesure, les femmes hispaniques ont voté aussi à 61% pour Kamala Harris. Ce sont donc les hommes. Ce ne sont donc pas les hommes qui ont élu Trump, hein, mais les blancs avant tout. Ça, il faut le rappeler. Le vote Trump est la conséquence d'une réaction à l'avancée des idées progressistes. Il a apporté une réponse à la question « Pourquoi les forts ne s'imposent pas, bordel de merde ?» Sa réponse, elle était simple, hein, le complot. Hein, Pour en revenir à l'Allemagne nazie, Hitler, lui, considérait que les juifs venaient féminiser et affaiblir la nation. Ah, les fachos, il n'y a que la taille de leur kiki qui les intéresse, c'est un truc de ouf. Je suis fasciné par leur fascination. Pour Trump, cette force occulte, hein, ce sont les étrangers et les minorités, principalement. En dehors de, après, vous mettez les femmes, vous mettez les intellectuels, vous mettez tout ce qui n'est pas pro-Trump, donc il y a beaucoup de choses quand même. Et voilà. Et le complot, il est protéiforme. L'important, c'est qu'il soit caché. Donc ça peut autant être les Tortues Ninja que Chipper, que les courgettes. L'important, c'est qu'il soit bien caché sous terre. Hein. Et là, et c'est là une autre force de la logique trumpiste. Hein. Il n'est pas nécessaire que la réponse soit vraie. Hein. Et il n'a pas hésité à parler de faits alternatifs lorsque la vérité ne va pas dans son sens. Dans cette campagne, les paroles mensongères de Trump représentent 97% de ses prises de parole. C'est énorme. Le mec, il a dit 3% de vérité. C'est incroyable. Au début, je vous avais dit que la logique états-unienne pouvait s'appliquer ailleurs. Bon, l'Allemagne nazie, évidemment. Mais est-ce qu'on peut l'appliquer en France, hein ? La question, moi je la pose sérieusement, on a tous en tête là, la séquence lunaire avec Ciotti sur le plateau de C'est à vous, hein, dont on a parlé ici, mais cette logique de la contre-vérité, la droite et l'extrême droite semblent s'en inspirer de plus en plus en France. Hein. Et la logique de la post-vérité, c'est la logique de la croyance la plus séduisante. Le mensonge devient acceptable du moment qu'il est adapté. Bon, on n'est pas encore au stade des États-Unis, c'est vrai, hein. Mais voir des élus politiques féliciter les pratiques de Trump et les voir s'en inspirer devrait quand même nous alerter et nous poser quelques questions sur la Trumpisation de la France.
Et c'est un ministre, hein, Éric Ciotti, parce qu'on ne pouvait pas parler de Zemmour, qui n'a aucune chance à mon avis, mais qui est très Trumpiste, le premier Trumpiste en français, lui, c'est clair. Mais oui, Eric Ciotti a sorti ça.
On pourrait parler de Bardella et tout son truc, son ramdam autour de son livre, alors qu'il savait très bien ce qui était en train
d'être... Ah mais t'as vu, il y a une session coup de couteau dans le dos qui s'est amorcée au FN, puisque Jordan Bardella a déclaré sur un plateau TV qu'il était nécessaire que le candidat à la présidence 2020 ait un casier judiciaire vierge.
Oui, oui, oui. Alors maintenant, j'ai hâte de voir comment ils vont se dépêtrer quand Marine Le Pen va être condamnée, si elle est condamnée.
Si elle est condamnée,
bien entendu. Mais je suis curieux de voir comment ils vont réussir à se dépêtrer de ça pour dire non. Mais
moi, j'ai peur d'un Bardella en 2027. Hein, parce que franchement, même si on prend en cause, il apporte une image qui paraît plus fraîche que celle des Le Pen. C'est pas une femme, c'est un jeune. Enfin, il y a beaucoup de trucs qui vont sans doute peut-être convaincre un électorat qui ne serait pas forcément laissé séduire par Marine Le Pen. Quoi.
Si elle est inéligible, c'est forcément lui qui sera candidat. Mais on a un peu de temps, on touche du bois en attendant. Avant ceci.
Pendant que le bateau coule. 19h-20h sur Radio Campus Orléans.
Et puis, oui, la peur... C'est qui? Alors, il y a le téléphone qui sonne en même temps, mais les auditeurs, nous sommes en studio, donc.
Les contraintes du direct.
Les contraintes du direct. Et c'est celui qui devait faire son papier maintenant, qui est au téléphone. Donc, comment on fait? On attend?
On peut attendre. Une petite musique, peut-être? Qu'en penses-tu, Hassan? Hassan,
oui.
Oui, es-tu avec moi?
Bah oui, non, mais j'essaie d'écouter en même temps parce que c'est quelqu'un qui est à peu près énervé au téléphone. Qu'est-ce qu'on fait, Victor, dis au monsieur qu'on le rappellera.
On rappelle toujours. Ah, je crois que on a un peu énervé des auditeurs.
On met un peu de musique, on revient. Ah. Victor revient. Alors, c'était qui?
Auditeur qui se plaignait qu'on parle de politique.
Ah bon, bah, très bien.
Il n'est pas sur la bonne émission, là.
Il n'est pas sur la bonne fréquence, à cette
heure-ci. C'est bien d'avoir participé à notre émission, monsieur. On va maintenant parler, Victor, avec toi, de ce projet 2025. On parlait de la France, c'est vraiment la crainte qu'ont certains analystes que si l'extrême droite arrive au pouvoir en France, il y ait des points de ce projet, ce fameux projet, dont les initiateurs sont très proches de Donald Trump.
C'est ça, en fait, ce projet qui a fait beaucoup parler de lui, le projet 2025, donc le projet 2025, Mandate for Leadership, donc un mandat pour le leadership, pour l'autorité, pour le pouvoir. En fait, ça a été émis par un think tank ultra-conservateur qui s'appelle la Heritage Foundation, qui a été fondée en 1973 sous Nixon. Alors, par Paul Verich, un activiste politique conservateur, Edwin Fellner, un doctorant de l'Université d'Édimbourg, et Joseph Kors, un industriel de la bière.
Tout s'explique.
Voilà. Tout s'explique. Donc, le Mandate for Leadership existe depuis 1981 et a beaucoup inspiré la politique de droite ultralibérale de Reagan et sa version 2025 a séduit Trump. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet? En fait, ce projet est un projet ultralibéral inspiré du nationalisme chrétien, visant à valoriser une cellule familiale dite traditionnelle et de démembrer l'État fédéral. Je vais vous faire une petite liste, un petit florilège du coup des propositions que propose ce fameux projet 2025. Alors, interdiction de l'avortement, bon, ça, malgré tout, ça fait plusieurs années maintenant que c'est en recul aux États-Unis, la question du droit à l'avortement, où les femmes sont malheureusement soumises au dictat la plupart du temps de leur... enfin, de leur congressman, plus que de congresswoman, bien sûr. Et voilà. Ensuite, on a une suppression des programmes de discrimination positive. Alors ça, Trump en a beaucoup parlé.
Il va le faire, je pense.
Ouais. L'idée, c'était que quand vous êtes aux États-Unis et que vous venez d'un background, d'un milieu qui n'est pas privilégié, en fait, vous avez des facilités pour pouvoir accéder à une éducation de haut niveau.
Ça s'appelle l'affirmative action.
C'est ça, l'affirmative action, la discrimination positive en français. Même si je trouve que discrimination n'est pas terrible dans ce sens-là.
C'est pas très représentatif.
Non, c'est pas très représentatif.
De ce que ça veut dire aux États-Unis, en fait.
Mais l'action affirmative, ça veut pas dire grand-chose. En français, non. Donc, il veut mettre fin à ces programmes de discrimination positive. Enfin, le projet 2025. Bien évidemment, c'est la marotte de Trump. Arrestation et déportation de tous les sans-papiers. Voilà, donc
en
ça
représente... Ils mangent des chiens.
Ouais. Enfin, voilà, c'est ce qu'a prétendu Trump au cours de sa campagne. Mais voilà, c'est quand même... Il faut se rendre compte que ça parle quand même de la déportation de centaines de milliers de personnes, même si, comme nous l'a précisé notre intervenant qu'on aura tout à l'heure, le mot déportation n'a pas le même sens en anglais et en français.
C'est ce qu'il nous dit.
Promotion de la peine de mort.
Oui.
Qui pourtant est actuellement aboli dans pas mal d'États aux États-Unis, mais effectivement, il y a une promotion de l'appel de mort.
Il y en a qui reviennent. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un comment ils disent, en anglais, c'est ban. À la fin des années 70, mais mm-hmm. pratiquement tous sont revenus. Hein. Il y a très peu ouais, qui l'appliquent. Il y a de moins en moins de gens qui sont exécutés, oui. mais des États sont revenus sur...
Les États-Unis ont été beaucoup condamnés pour notamment torture en laissant les personnes dans le couloir de la mort. En fait.
D'accord. Okay. En plus de ça, on a une volonté de réduire les taxes sur les sociétés qui devraient passer de 25%, ce qui est déjà ridicule, à 18%, et une suppression des impôts sur le revenu. Mmh. Malheureusement, comment faire pour compenser les pertes de financement ? Alors déjà, il y a des coupes drastiques budgétaires qui sont envisagées par le pouvoir, par le projet 2025, mais également aussi l'idée de créer une flat tax, les gens contribueraient du coup à hauteur, paieraient un impôt de base. Le même pour tout le monde. Et ça permet de renflouer les caisses de l'État, même si jamais c'est un impôt qui est extrêmement discriminatoire. Mmh. Parce qu'évidemment, lâcher 500€ ou $500 pour quelqu'un qui en gagne 10 000 par mois, c'est pas la même chose que pour quelqu'un qui en gagne 75 000.
Ouais, c'est flat tax qui a fait tomber Margaret Thatcher aux États-Unis, au Royaume-Uni.
Ouais.
Ça leur fait ni chaud ni froid à nos amis de la Foundation. Mmh. Ils veulent faire ça aux États-Unis. Mais qu'ils voient l'exemple de l'Angleterre, quoi. C'est très discriminatoire et très violent pour les précaires.
Il y a également un projet d'élimination de la propagande woke dans campus américains. Alors il faut savoir que la propagande woke, ça concerne non seulement les gender studies, mais aussi les études afro-américaines, mais également l'écologie et la climatologie, qui sont considérées comme étant des idéologies woke. Parler du changement climatique, parler de ce genre de choses, bientôt ça va... D'après ce projet, ça va devenir interdit du coup sur les campus américains, ce qui est quand même d'un climato-sceptisme assez qui fait froid dans le dos, quoi.
Mais pas eux, parce que.
Bien évidemment, avec ça, on a la promotion des énergies fossiles et la suppression des agences fédérales de protection de la nature, hein, bien évidemment, parce que sinon on peut pas faire business as usual.
C'est en accord avec son projet drill.
Drill baby.
C'est ça.
On a une extension du pouvoir de l'exécutif présidentiel. Alors, c'est la seule partie du programme qui est pro-étatique. Ça m'a un petit peu surpris, mais il y a quand même une partie pro-étatique qui veut, en fait, donner plus de pouvoir au président des États-Unis qu'il n'en a actuellement.
Mais pour eux, dans leur tête, c'est des gens comme Reagan, qui a mis l'ultralibéralisme, et Trump, qui est un fasciste.
Est-ce qu'on peut le dire ?
Comment on dit déjà ? Voilà.
Crypto-fasciste.
Voilà. Donc oui, ils écrivent ça pour qu'il y ait un homme comme ça, des hommes comme ça, très forts. Voilà.
Il y a trois trucs que j'ai retenus qui étaient très importants. Il y a d'abord la suppression de l'approbation du Congrès pour engager des troupes militaires à l'étranger. Ce qui est actuellement le cas, c'est-à-dire que pour pouvoir envahir un pays à l'étranger, le président américain a besoin d'abord d'un accord du Congrès.
C'est ça.
Ce qui du coup serait supprimé par ce truc-là. Le FBI dépendrait directement du président. Il serait responsable devant le président, alors qu'actuellement c'est une agence gouvernementale indépendante. Ce qui a permis d'ailleurs de pouvoir enquêter sur différents milieux politiques et ce genre de choses. Il y a du pire comme du meilleur avec le FBI, mais on va dire que ça garantit quand même une certaine indépendance. Et la troisième, c'est reclasser des fonctionnaires, donc des civil servants, donc c'est-à-dire des fonctionnaires qui ont un statut, qui ont un truc, qui ont une protection, etc., en political appointee, donc en personnel politique. Et l'idée, en fait, ce serait de pouvoir mettre, du coup, à la botte du président toute une partie des fonctionnaires de ce pays qui, du coup, ne seraient plus considérés comme étant des fonctionnaires, mais comme étant du personnel politique, et donc, du coup, sauterait à chaque élection et serait capable d'être remplacé directement par la décision du président de la République. Enfin, du président des États-Unis. Voilà, bien évidemment, après ça, il y a reprise de la production de têtes nucléaires. aller à l'encontre des traités de non-prolifération, tout un tas de choses. Bannissement de la pornographie aussi.
Ah, ça m'étonne de Trump.
Ouais, ça m'étonne de Trump, ouais. Pourtant, lui-même qui a couché avec une ancienne actrice porno.
C'était pour tester.
Il a dit non, j'aime pas.
Il a trouvé que c'était dur parce que ça l'a amené devant le tribunal. Il a fait allez, on interdit.
Et bien évidemment, limitation des droits et des soins pour les personnes transgenres. Une des cibles majoritaires du coup de ce projet 2025 comme étant l'ennemi à abattre.
Je suis allé voir sur internet, il y a je crois 900 pages de ce truc, mm-hmm. et tout ce qui est genré sur les genres, c'est genre 150 pages quoi.
Ah oui, oui, c'est énorme.
C'est énorme, ils ont un problème contre,
ah oui, contre les personnes trans, oui, totalement.
Pendant la campagne, on a entendu Donald Trump dire régulièrement dans les meetings, imaginez votre enfant qui est garçon, qui part à l'école le matin, il revient à la maison, hop, il est une fille. Mm-hmm. Et il y a des gens qui croient ça.
Ah ouais, ouais, bah après il a un très bon exemple, Elon Musk qui a son sa fille,
c'est sa fille,
propre fille, ouais, qui fille, qui l'a renié.
Ben ce c'est bon.
Ah oui, oui, c'était un projet... petit florilège, oui, oui. Un petit tour de. J'ai pas tout mis, hein, mais, parce qu'il y en avait sûr. Beaucoup.
Mais non, mais
beaucoup.
Il y a 900 pages, je te dis.
C'est affolant.
J'ai commencé à le lire, mais voilà, quoi. Il faut arrêter à un moment vraiment, pour être sain d'esprit. Nous en avons parlé un petit peu avec Augustin Abran tout à l'heure, dans la longue interview qu'il nous a donnée. Juste deux, trois trucs sur ce projet. Au début, Trump en a parlé pendant le début de sa campagne, en les citant sur scène. Après, il a bien vu que ça dérangeait même chez certains républicains. Il a pris un peu de champ avec eux. Et puis finalement, on se rend compte qu'il y a entre 60 et 80 personnes de ce think tank, je ne sais plus le nom,
Heritage Foundation,
qui sont dans l'équipe là, en ce
oui,
moment,
ce
qui est en train
amis,
d'être.
C'est des gens qui mangent. Enfin...
Eh bien, les États-Unis ont voté pour ça. Bah, ils l'auront. On va passer un peu de musique avant Augustin Abran avec le papy, le tonton, Stevie Wonder. Très politique dans sa dernière sortie. C'est un single qui est sorti il y a 15 jours. Il parle justement politique. Can we fix our nation's broken heart? Pouvons-nous remettre en une pièce commune le cœur de notre patrie qui éclate? Voilà.
Can we fix our nation's broken heart? Are we brave enough to try? Can we fix our nation's broken heart and leave a better world behind? 'Cause if we listen to different thoughts and point of views, all my brothers and sisters, we don't have to lose humanity. We're family, so can we please fix our nation's broken heart? Children marching on the boulevard, tears are streaming down their face. Oh, the tension in the air is so bizarre. Love is gone without a trace. People pushing and shouting, fighting through the haze, and all the sadness. Help me take away the pain. It's gotta change. This can't stay the same. So tell me please, can we fix our nation's broken heart? Poverty and homelessness, can we do away with this? All we need is to be giving. our nation's broken heart. Are we brave enough to try? Yeah. We must fix our nation's broken heart to leave a better world behind. We've come together with purpose far bigger than you and me. Don't have no time for hatred and negativity. It's you and me, we hold the key. So tell me please, can we fix our nation's broken heart? Our nation's broken arm. I know and you know we must fix our nation's broken heart.
À bâton rompu avec Hassan Kerim.
Notre invité dans À bâton rompu ce mardi est Augustin Abrant. Nous le recevons avec Victor. Augustin Abrant, maître de conférences en histoire et civilisation des États-Unis à l'Université d'Orléans, en lettres, langues et sciences humaines. Bonsoir, monsieur Abrant.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler du dernier scrutin présidentiel aux États-Unis. Merci. Et la victoire de Donald Trump et des analyses sociologiques qu'on peut en tirer, notamment sur le vote des minorités, minorités ethniques et minorités sexuelles, qui sont ces votes très, 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 très étonnants. Mais tout d'abord, comment avez-vous accueilli ce résultat vous-même?
Dans un premier temps, une certaine surprise, c'est-à-dire que moi-même et beaucoup de spécialistes, on avait imaginé un score qui soit davantage serré. On avait imaginé que les dépouillements allaient prendre des jours, qu'ils allaient d'ailleurs se faire potentiellement dans la violence. Et finalement, au cours de la nuit, on se rend compte que l'avancée de Donald Trump est assez importante. Et à partir du moment où il a effectivement gagné les états pivots, enfin les swing states, et notamment la Pennsylvanie, on s'est dit il se passe quelque chose. Alors évidemment, on est d'une certaine manière surpris par cette victoire qui est honnêtement tout à fait franche, mais voilà, en tant que spécialiste, on va dire, de la société états-unienne, à titre personnel, moi, cette victoire de l'idéologie de Donald Trump, en tout cas la manière dont il a exprimé dans sa campagne, ne me surprend pas vraiment.
D'accord, mais oui, alors, il gagne ce qu'on appelle les états clés, les états pivots, vous dites. Il en gagne 7.
Mais tous,
en fait. Et 6, oui, bien sûr. Mais 6 avaient voté en 2020 pour Joe Biden et Kamala Harris.
Oui, il y a un retournement de situation qui est assez frappant, et notamment la Pennsylvanie, qui avait été démocrate en 2020 et qui là passe... côté républicain, c'est lié à des questions qui sont relatives aux problématiques que connaissent les Américains, de la classe moyenne et de la classe populaire en particulier. Hein, c'est des États. Bon, déjà, il y a une différence majeure entre les zones rurales et les zones urbaines.
Bien sûr.
Mais je veux dire le vote. Alors, sans stéréotype, on va dire le vote des ouvriers en particulier a cette tendance à aller vers le parti républicain parce qu'il est, du moins leur semble-t-il, en mesure de régler leurs problèmes, leurs difficultés économiques. Et puis, juste un point effectivement sur la question de la Pennsylvanie, il y a quand même toute la question de l'écologie et du fracking. Kamala Harris a été particulièrement ambiguë, elle a dit qu'elle était contre pendant plusieurs années, puis là dans la campagne évidemment elle était pour, donc cette ambiguïté a joué. Mais dans tous les états effectivement on voit bien que ce qui a joué, et les états clés en particulier, ce qui a joué, c'est la question des enjeux en fait que les Américains au sens large voient comme les enjeux principaux dans leur vie quotidienne, à commencer par l'inflation, les difficultés liées à l'économie. Et ça a joué, évidemment, dans ces États en particulier, en faveur de Donald Trump.
Oui. On a beaucoup scruté le vote des minorités, notamment ethniques. On va commencer par les latinos. Les latinos, je crois, une semaine avant l'élection, il y a une blague, une mauvaise blague d'un comédien qui est dans un meeting de Trump, qui parle de Porto Rico comme de garbage, je sais pas quoi.
Oui, alors c'est même pas une blague. C'est-à-dire que oui, c'est une poubelle sur la mer.
Oui, c'est ça.
Voilà, moi ça fait partie des outrances pour le coup très très étonnantes d'ailleurs hein, de la campagne de Donald Trump et pas seulement de lui, mais y compris de ses colistiers et puis enfin de tout le personnel républicain du moins engagé dans la campagne. Et effectivement, il y a eu des outrances majeures, notamment effectivement Porto Rico considéré comme une poubelle sur la mer. D'ailleurs, on passe hein, sur les outrances de Donald Trump sur les migrants d'Amérique latine au sens large, hein, qui sont considérés vraiment de façon objectivement raciste.
Mais alors, par contre, il y a une majorité de latinos qui votent quand même. Il y avait eu beaucoup d'énervement, notamment sur les réseaux sociaux. Les artistes très connus latinos et de Porto Rico avaient dit « jamais voter pour les Républicains ». Et finalement...
Mais ça avait mobilisé en réalité dans la foulée un certain nombre de personnalités d'origine latino. Je pense à Jennifer Lopez, par exemple, hein, qui est entrée dans la campagne pour soutenir Kamala Harris. Ce qui a, d'ailleurs, ça, je fais juste une parenthèse, ça nous amène à un autre phénomène qui, à mon avis, je pense, a desservi la campagne de Kamala Harris, c'est ce côté, entre guillemets, people, qui a associé Kamala Harris à Hollywood, aux élites, à l'état profond, tel que Trump le décrit, qui n'a pas aidé, notamment, au sein de l'électorat, entre guillemets, populaire.
La même chose s'était passée pour Hillary Clinton, ils n'ont pas retenu la leçon.
Exactement, c'est ça. mais quant au vote latino ou hispanique, on va dire, il y a plusieurs choses qui sont à prendre en compte. Alors attention, c'est pas non plus une majorité hispanique qui a voté pour Donald Trump. Par le chiffre, le dernier sondage, c'est 45%. Mais ce qui est à noter, en revanche, c'est que c'est une augmentation de 13% par rapport à 2020. Donc on voit qu'il y a une augmentation du phénomène et du vote républicain, et notamment du vote pour Trump en particulier. C'est ça qui est le plus important. Et je pense qu'en fait, au-delà de ces polémiques, ça découle de la réalité des communautés latino aux États-Unis en fait. Ce sont des gens qui se considèrent d'une part comme américains, hein, qui travaillent, qui pour la plupart, encore une fois, sans faire de stéréotypes, mais sont responsables de petites et moyennes entreprises qui font face à l'inflation, à des problèmes économiques, qui sont favorables au protectionnisme envisagé par Donald Trump et qui eux-mêmes voient parfois d'un mauvais œil la réalité de l'immigration sur la frontière avec le Mexique en particulier. On peut y revenir, mais je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on imagine. C'est-à-dire qu'en fait, il va falloir, à mon avis, et c'est valable pour les États-Unis, mais c'est valable pour la politique au sens large, essayer d'éviter les silos identitaires et considérer qu'une minorité ethnique serait nécessairement entre guillemets de gauche, ce qui se heurte au concret de la réalité économique en particulier.
Mais c'est ce qui passe aux États-Unis beaucoup et peut-être ici aussi, on y reviendra, Victor.
Oui, mais au-delà des aspects économiques, est-ce qu'il n'y a pas aussi une partie de l'électorat latino qui a été séduite par Trump sur ces questions sociétales, notamment la question des minorités sexuelles, du droit à l'avortement, ce genre de choses?
Oui, c'est exactement ce que j'allais dire, effectivement. C'est-à-dire que, alors, pour le coup, ça pose la question, on va dire, avec de gros guillemets, du wokisme et des problématiques sociétales aux États-Unis. Alors, d'une part, peut-être en préambule, je dirais qu'on aurait tort, en revanche, d'associer Kamala Harris au wokisme. Alors, effectivement... dans le passé, et notamment lorsqu'elle était démocrate en 2020, pour la campagne des primaires, elle avait des positions qui paraissaient entre guillemets plus woke, defend the police et d'un point de vue sociétal majeur. En revanche, dans cette campagne là en 2024, elle s'est totalement dissociée de ces problématiques là. Bon, évidemment, la question de l'avortement, c'est une première chose, on va y revenir, mais elle à aucun moment, si vous voulez, fait valoir son origine, sa race, entre guillemets, ni le fait que ce soit une femme. En revanche, elle est associée par les médias, notamment les médias conservateurs, effectivement, comme associée au wokisme. Et vous avez tout à fait raison, l'électorat latino aux États-Unis, Que d'ailleurs Kamala Harris, et pas que Kamala Harris, appelle Latinx d'ailleurs pour éviter justement le genre, n'est pas nécessairement, au contraire d'ailleurs, du goût de ces populations qui sont pour la plupart d'ailleurs majoritairement religieuses, catholiques d'ailleurs, et qui ont pour une bonne partie une vision assez traditionnelle de la famille, du patriarcat, et qui donc ne considère pas ces enjeux sociétaux dans leur quotidien d'une part, et puis le voit potentiellement comme un certain danger. Beaucoup de d'hommes latinos ne sont pas nécessairement satisfaits lorsqu'on les appelle latinex, effectivement. et je pense que ça joue énormément, oui.
Et puis l'Église, hein, faut pas oublier l'église, le pote d'Église, hein. Passons aux Afro-Américains. Kamala Harris est un papa venu de la Jamaïque, une maman venue de l'Inde. D'ailleurs, oui. Trump a beaucoup fait de blagues là-dessus. On se disait, en plus, elle a été aidée dans la campagne par le couple Obama. Enfin voilà, et l'électorat afro-américain, on dit African American, lui a manqué aussi.
Alors là, pour le coup, je nuancerai un petit peu, parce que les derniers sondages montrent bien quand même que les Afro-Américains, c'est quand même 86% du vote pour Harris. Hein.
Absolument. Et 12% pour Rooney, non mais on est d'accord.
Voilà, donc là, pour le coup...
Beaucoup de femmes, non?
Alors, effectivement, Kamala Harris, mais d'ailleurs pas uniquement parmi les Afro-Américains, mais Kamala Harris a perdu un petit peu le vote des hommes, et des hommes noirs oui. en particulier. Alors, est-ce que c'est dû au fait que ce soit une femme? Peut-être. C'est vrai qu'il y a eu toute cette question de la race qui a été mise en avant, notamment par Obama, hein, qui est venu d'une certaine manière à la rescousse de Kamala Harris en expliquant qu'il fallait que les hommes noirs absolument votent pour Kamala Harris.
Ça n'a pas été forcément
pour
bien
leurs
pris.
Intérêts
hein.
économiques, ce qui n'a pas été bien pris, parce qu'encore une fois, c'est du vote identitaire. Et c'est considéré que les noirs, par nécessité, doivent voter démocrate, ce qui, en l'occurrence, voilà, remettent en question eux-mêmes, puisque, alors là, pour le coup, ce sont des Américains, ça va sans dire, mais je veux dire, en plus, c'est une minorité ethnique qui n'est pas immigrée. Enfin, c'est-à-dire que ce sont des Américains par essence. De fait, les problématiques que Donald Trump met en exergue leur correspondent tout à fait à plein d'égards. Et pourtant, c'est vrai que Trump a été particulièrement outrancier sur l'ensemble de sa carrière. Je pense aux 5 de Manhattan. Je pense aux propos qui étaient particulièrement ambigus au moment des émeutes racistes de Charlottesville. Et je pense bien sûr aussi à sa dernière sortie, la sortie pendant la campagne où il avait dit que soudainement Kamala Harris était devenue noire. Mais qui était un moyen, je pense, qui a été perçu avec une certaine ironie aussi par les Afro-Américains qui ont bien compris qu'il s'agissait de discréditer Kamala Harris pour sa politique identitaire qui, pour le coup, ne prend pas.
Dans ses outrances, Trump avait, dans la campagne, parlé de Haïtiens qui mangeaient des chats et des chiens dans la petite ville de Springfield, dans l'Ohio. Il est arrivé premier à Springfield, alors qu'il y avait eu un scandale dans la ville où les gens disaient, j'ai vu énormément de reportages, mais alors évidemment, je vous disais avant qu'on rentre dans les studios que je regarde CNN beaucoup, peut-être que j'aurais dû regarder Fox News, mais
il faut toujours regarder différents médias, parce qu'effectivement, il y a toujours une orientation. Absolument. Alors Fox News, effectivement, c'est représentante de la nouvelle droite religieuse, mais CNN a parfois tendance un petit peu aussi à être sur un petit nuage progressiste.
On est d'accord, parce que... Évidemment, je regardais des reportages où des familles, même blanches, à Springfield disaient « c'est fini, nous sommes républicains depuis toujours, mais on va voter Kamala Harris parce qu'il a foutu, il fout la honte à notre ville ». Il arrive premier à Springfield.
Oui.
Il y a quelque chose qui se passe, c'est quoi ?
Ce qui se passe, c'est que, alors effectivement, pour le coup, cette sortie était incroyable. Elle a causé beaucoup de tort aux populations locales et aux populations immigrées en particulier, bien sûr. C'était, on pensait, c'est la phrase c'est sans doute la phrase la plus frappante de la campagne. Pensait que c'était vraiment ce qui lui avait fait perdre le débat le 10 décembre, est-ce qu'il allait perdre ça vraiment, lui faire perdre la campagne au sens large. Et pourtant, effectivement, il arrive premier. Parce qu'en fait, il met en exergue une réalité malgré tout, qui est la difficulté de l'intégration de l'immigration récente dans ces... Alors, à tort ou à raison, mais il n'en reste pas moins que pour les populations locales, y compris pour les minorités ethniques et les on va dire les précédentes vagues d'immigration, l'immigration récente telle qu'elle se présente aujourd'hui présente, selon eux, des difficultés majeures auxquelles Trump est plus à même de répondre par des propos parfois outranciers, sans doute démagogues, mais qui de fait a entre guillemets le mérite de poser la question, ce que Kamala Harris n'a pas pu faire, et d'autant plus qu'elle avait un désavantage majeur sur cette question de l'immigration, puisque en tant que vice-présidente, elle avait un bilan et qu'elle était par ailleurs mandatée par Joe Biden pour s'occuper de la question de la frontière avec le Mexique, qui pose pas uniquement la question de l'immigration en tant que telle, mais aussi du trafic, de la question des drogues, du trafic humain, et pour le coup, la question migratoire aux États-Unis aujourd'hui, elle a pris une ampleur majeure qui pose des problèmes locaux, économiques très importants. Ce qui a desservi Kamala Harris et les outrances de Trump au sens large ont eu un certain écho, puisque il a eu l'habilité, dans le même temps, de séparer. Il a jamais, enfin, il a eu des propos évidemment outranciers, racistes, et voilà, je reviens pas là-dessus. Mais je veux dire, il a eu l'habilité politique de parler de clandestins.
Oui.
C'est-à-dire qu'en fait, il a dit l'immigration est d'une certaine manière une chance pour l'Amérique. Nous sommes un pays d'immigration. Le rêve américain doit exister, doit être là de manière pérenne. Et dans le même temps, le problème, c'est les clandestins. Alors, il a dit des horreurs, hein, les clandestins qui sont tous des fous, des tarés, des violeurs, des ce qu'on veut. Mais dans le même temps, il a imposé cette dichotomie politique entre ce qui était être américain qui défendait ses valeurs et dans le même temps, les dangers de l'étranger qui trouvent un certain écho, y compris pour les populations anciennement immigrées et minoritaires. Je veux dire, un point qui est très important à rappeler, c'est que ça n'est pas parce qu'on est immigré qu'on est exempt de sentiments xénophobes. Je veux dire, l'histoire des luttes minoritaires pour la part du gâteau du rêve américain, entre guillemets, elle est aussi vieille que l'Amérique. Hein. Je veux dire, les guerres de gangs à New York, c'était ça. Hein. Donc c'est important de le prendre en compte et d'avoir une vision nuancée.
Ce dossier est tellement important que je crois que ce qui se dit chez les Républicains, c'est que le premier dossier, justement, sur son bureau après le 20 janvier, ça va être l'immigration. Et lui-même a parlé pendant la campagne, et puis là, il y a des fuites en disant qu'il va faire des déportations massives. Alors, est-ce que c'est possible, en 2016, il avait essayé, je crois, hein, mais est-ce que c'est possible, selon vous, de déporter autant l'économie américaine marche beaucoup avec l'apport d'immigrés, quand même.
Oui, bien sûr. Oui. Alors, il y a plusieurs éléments. Il y a plusieurs éléments dans votre question. Oui. Alors, d'une part, oui, l'économie fonctionne évidemment grâce à l'immigration. Simplement, là, ça explique justement la question du vote latino et du vote afro-américain sur les questions d'immigration. Hein, parce que qu'on le veuille ou non, le système capitaliste états-unien va nécessairement faire peser à la baisse sur les salaires en utilisant une main d'œuvre qui est illégale. Hein. Donc ça, c'est un premier point. Il faut faire très attention. Ça, c'est un problème qui a eu lieu, voilà, qui s'est développé dans les médias récemment sur le terme de déportation. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, évidemment, la question de la déportation, c'est voilà, connoté, on va pas revenir là-dessus, mais simplement, c'est lié à une traduction de l'anglais. Hein, ouais. Deportation, ça veut pas dire déportation, à proprement parler. Oui. Hein, c'est-à-dire que c'est exclusion, renvoyer d'une certaine manière les clandestins chez eux, et donc en fait, c'est, si vous voulez, c'est, pour le dire rapidement, l'équivalent d'une OQTF. Hein, donc c'est pas une déportation, on a tout de suite des images saisissantes qui nous glacent le sang. Il a jamais parlé de ça. En revanche, il a déjà essayé de mettre en œuvre des certaines politiques, effectivement, vous l'avez dit, en 2016, qui ont été parfois très choquantes. Alors, je pense notamment, par exemple, à la séparation hein, des enfants avec leurs parents sur la frontière mexicaine. On voit bien que la question du mur aussi avec la frontière a été d'une certaine manière un échec, hein, puisqu'aujourd'hui, le mur n'est toujours pas totalement terminé. Et puis, on sait très bien, de façon tout à fait rationnelle, qu'un mur n'empêche pas l'immigration. Est-ce qu'il est en mesure de le faire d'une certaine manière, oui, tout va dépendre de la, des dotations de l'État et de la façon dont il va, entre guillemets, pouvoir mettre en ordre de marche les forces de l'ordre, on va dire. Il faut dire qu'il est quand même aidé par des nouveaux...
Il parle de militaires. Hein.
Il parle de
là,
militaires.
Là, depuis 2-3 jours, il parle vraiment de mettre les militaires à contribution. Ça devrait être sale, moi je pense.
Je pense qu'il y a beaucoup de rhétorique politique aussi. Il ne faut pas oublier que, en général, même les candidats les plus populistes, les plus démagogues et les plus outranciers, très rapidement se heurtent au mur de la réalité. Hein, je veux dire... exclure des États-Unis des millions de clandestins du jour au lendemain me paraît peu réaliste, à vrai dire.
Il y aura des événements
qu'on verra dans les médias qui vont être frappants, qui vont donner des images assez frappantes. On peut parler dans le même temps d'ailleurs aussi, si je peux me permettre, sur la question des musulmans aussi,
qui
est intéressante. Il avait fait le fameux Muslim ban, donc qui interdisait à certains ressortissants, aux ressortissants de certains pays à majorité musulmane, simplement d'entrer aux États-Unis. Donc il va sans doute remettre en place ce système pour, dit-il, la sécurité intérieure. Et d'ailleurs, peut-être juste un point là-dessus, ce qui est fascinant, c'est qu'on parlait justement du vote minoritaire. Alors là, la minorité arabe et musulmane aux États-Unis, elle est pour le coup très minoritaire, mais elle est majoritaire dans un endroit très précis qui est Dearborn, dans le Michigan. Et là, encore une fois, les voix pour Donald Trump ont augmenté. Il est passé dans cette communauté à majorité musulmane. Malgré, alors là encore, il faut faire très attention de ne pas essentialiser les communautés de manière à envisager leur vote avant même qu'ils puissent s'exprimer, mais malgré les positions, pour le coup, très tranchées de Donald Trump sur la question d'Israël et de la Palestine, et malgré le Muslim ban, par exemple, mis en place auparavant, là encore une fois, je pense que c'est la même chose que pour le vote latino. On retrouve les questions sociétales aussi, les questions économiques d'abord, comme tous les Américains bien sûr, et les questions sociétales en particulier, la religion est incompatible avec ce que d'aucuns pourraient considérer comme de l'extrémisme wokiste.
Victor ?
Oui, moi j'avais une question aussi. Alors je ne sais pas si c'est une info vérifiée, donc il faudra me couper si jamais ce n'est pas le cas, mais j'ai entendu dire aussi qu'il y allait avoir une vague de dénaturalisation. C'est-à-dire que des personnes qui sont considérées, qui sont immigrées, qui sont actuellement considérées comme américains, vont peut-être perdre leur droit à la citoyenneté.
Alors pour le coup, je n'ai pas cette information.
Ah d'accord,
Alors après, il faut dire que c'est toujours difficile, parce que Donald Trump a tellement d'outrance dans ses campagnes électorales qu'en fait il va dire des fois, il va utiliser des phrases qui sont ultra choc, parfois même complètement déraisonnables, donc on ne sait pas dans quelle mesure il va mettre en œuvre tel ou tel événement. Par contre, effectivement, dénaturaliser les citoyens américains, pour le coup, c'est une démarche qui est très compliquée et qui, à mon sens, n'aura pas lieu. C'est techniquement pas vraiment faisable, sauf cas de force majeure, on va dire. Et puis d'ailleurs, il y a différents points qu'il faut noter quand même, parce que Donald Trump, pour le coup, n'aura en revanche pas les mains liées. Hein. Il a une majorité au Sénat, une majorité dans la Chambre des représentants. Il a la Cour suprême de son côté,
tout
notamment depuis qu'il a nommé trois juges ultra-conservateurs dans son premier mandat. Donc il a, si vous voulez, toutes les institutions, entre guillemets, de son côté, mais la démocratie américaine fonctionne malgré tout par un système d'équilibre de pouvoir. Il faut faire voter un certain nombre de dispositions qui prennent le temps du débat et des enjeux de la discussion politique. Donc avant que les choses se mettent en place de manière radicale, il faut quand même, on peut imaginer... Le danger que Donald Trump peut représenter pour la démocratie au sens large, l'élection a malgré tout montré que la démocratie américaine dans ses institutions tient debout. Et on ne peut pas faire tout et n'importe quoi non plus. Il y a quand même des garde-fous qui existent. À mon avis, cette question de la dénaturalisation ne se mettra pas en œuvre. Peut-être que je me trompe, je pense que c'est davantage de l'esbrouf rhétorique.
Il me semble que Donald Trump lui-même n'a pas parler de ça, mais par contre, il a un très proche, Stephen Miller, je ne sais pas si vous connaissez, ce jeune homme qui était un de ses conseillers à la première présidence 2016-2020, voilà, qui a l'oreille de Trump, hein, et qui, quand il était jeune, a participé, dit-on, à des manifestations du Ku Klux Klan. Lui, il en a parlé, vraiment. D'accord. Et il est actuellement, il a été nommé il y a une semaine secrétaire général adjoint de la Maison Blanche. Donc, il a toujours l'oreille de. On va voir.
Oui, mais... oui. Bah, Donald Trump, de toute façon, a toujours. Voilà, tapis dans l'ombre, il y a des suprémacistes blancs à qui il a fait des clins d'œil depuis son premier mandat. Hein, les Proud Boys, par exemple, dans le Sud, à qui il leur a dit voilà, de rester calme, mais de se mettre de côté. Mmh. Alors, pour le coup, Donald Trump, en tant que tel, Dieu sait qu'il a été outrancier, mais je veux dire, n'a jamais été suprémaciste dans son propos politique. En revanche... il a toujours montré une certaine tolérance. Bon, faut dire que c'est les États-Unis aussi, hein, donc l'amendement, le premier amendement garantit la liberté totale d'expression. Donc, de fait, les mouvements du Ku Klux Klan, les mouvements néo-nazis sont tout à fait tolérés. Enfin, je veux dire, voilà, peuvent tout à fait s'exprimer. En revanche, cette réalité-là, oui, elle est sous-jacente et elle est bien entendu satisfaite de l'élection de Donald Trump. Du moins, elle est confortée. Dans le fait d'avoir entre guillemets un ami au niveau de l'exécutif fédéral.
À bâton rompu sur Radio Campus Orléans et Radio Campus Tours tous les mardis de 19h à 20h.
Nous allons passer maintenant au vote des jeunes, hein, et la plupart des jeunes ont voté pour Kamala Harris, il me semble, en tout cas ceux de 18 à 29 ans, je crois, j'ai ça devant les yeux, 55-42, je ne sais pas si vous avez ces chiffres là, 30 à 44 ans, 51% pour Kamala Harris, 46% pour Donald Trump, 45 à 64 ans, 53 pour Trump, 45 pour Harris, et puis bon, beaucoup plus haut. Alors beaucoup plus haut, c'est intéressant également, hein, 65 ans et plus, 50, j'ai 50 et 48 ou 49.
Ah bon,
oui, j'ai ça.
Ah, c'est plus serré que ce que je pensais dans l'électorat plus âgé.
Oui,
là où c'est frappant, c'est surtout entre les 45-64 ans,
c'est ça.
Qui sont à 53% pour Donald Trump contre 45.
Exactement.
Et pour les jeunes, effectivement, voilà. Les 18-29 ans, il y a une majorité courte, hein, pour Kamala Harris, mais on note surtout, de la même manière que pour le vote latino, hein, une augmentation de 6 points, hein, quand même, par rapport à 2020 pour Donald Trump. Mais
des jeunes diplômés, plus...
Pardon ?
Des jeunes diplômés plus, non ? Il me semble.
Alors, il y a aussi... des jeunes diplômés, oui. Alors, 57% des diplômés votent pour Harris.
D'accord, ben oui. Donc, une majorité.
Mais on voit bien que... En fait, ça reflète, si vous voulez, la fracturation de la société états-unienne de manière tout à fait frappante. Entre classe aisée, classe populaire, diplômés, non diplômés et surtout... zone rurale, zone urbaine. On est dans une fracturation idéologique qui se voit vraiment comté par comté de façon géographique, c'est impressionnant. Si on prend la Pennsylvanie par exemple, des villes comme Philadelphie vont être à majorité démocrate. Dès qu'on entre dans une zone rurale, tout de suite, c'est une majorité républicaine. Donc il y a une fracturation qui se voit, y compris chez les jeunes, par la question du diplôme, mais surtout par la question de la localisation géographique. Alors, les jeunes des États ruraux vote républicain et Donald Trump, puisqu'il leur donne aussi, d'une certaine manière, voix au chapitre aussi dans sa rhétorique politique, ce que fait peu le Parti démocrate aujourd'hui.
Ouais. Springfield, they're eating the dogs, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs, they're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there.
People of Springfield, please don't eat my cats. Why would you do that? Eat something else. People of Springfield, please don't eat my dog. Here's a catalog of other things to eat.
They're eating the dogs.
Whoa, 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 whoa.
They're eating the cats.
Meow, 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 meow.
They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs.
Whoa, 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 whoa.
They're eating the cats.
Meow, 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 meow.
They're eating the pets of the people that live there. They're eating the dogs.
La question est de savoir comment des gens ont pu voter pour un gars qui dit que les Haïtiens mangeaient des cats et des pets à Springfield. Alors, c'était pendant le débat avec Kamala Harris, où il a sorti cette énormité. Et le lendemain, un jeune homme, il est sud-africain, je crois, son nom d'artiste est Danny Unfiltered, a repris ça et a fait c'est quand même assez magique.
Mais ouais. Ce que tu disais en plus, enfin je sais pas du coup si c'était dans cette partie de l'interview, enfin je me remémore pas tout, mais ouais. C'est d'autant plus flippant que Springfield a voté en majorité pour Donald Trump.
Ah oui, on a parlé dedans, mais c'est vrai, il y a des tas de choses qu'on ne comprendra pas. On a parlé aussi avec Monsieur Abran du vote des populations indiennes. C'est sa spécialité. On passera toute l'interview sur le site de la radio et notamment sur le site Facebook d'Abaton Rompu, parce que c'est très intéressant la fin de l'interview également. Apparemment, les Indiens auraient... Il y a quand même une augmentation de vote chez les Indiens également. C'est quand même une dinguerie, quoi.
Ouais, bah ouais. C'est affolant. C'est affolant, surtout quand on sait comment Trump il a traité les tribus amérindiennes. Mais on se souvient tous du pipeline au Texas,
c'est ça.
Pendant son premier mandat, où il en a eu rien à foutre des peuples amérindiens qui lui disent, qui le sommet de non, ouais. on en a besoin pour vivre.
Ouais. Augustin Abran nous en parle il faudra que vous regardiez, on vous fera savoir, en tout cas quand on le mettra sur le site, l'interview dure en tout une cinquantaine de minutes. Très belle interview, merci encore à monsieur Abran s'il nous écoute, et puis on vous attend ici à ce micro pour parler d'autres choses. De la politique américaine nous intéresse.
Oui, je voulais juste préciser un truc par rapport à notre cher ami qui nous a téléphoné tout à l'heure.
Oui, bien sûr.
Oui, avec tout le respect que j'ai pour lui. Mon parallèle entre Trump et le nazisme, il ne sort pas de mon chapeau. Pour le coup, je rends à César ce qui appartient à César. Et pour le coup, ça appartient à un historien qui notamment travaillait sur l'histoire du contemporaine et le nazisme, Johannes Chapoutot. C'est lui qui a fait ce parallèle entre Trump et le nazisme, et je n'ai fait que reprendre en fait ce qu'il disait. Et donc voilà, je vous invite à aller lire ses travaux, il explique ça bien mieux que moi et bien plus longuement et de façon bien plus détaillée. Hein. Moi, je vous en ai fait une petite synthèse.
Et puis voilà. Monsieur, si c'est la première fois que vous êtes tombé sur Abaton Rompu sur Radio Campus Orléans ou Radio Campus Tours, sachez-le, revenez pas, vous allez souffrir. vraiment, c'est un conseil. Si vous n'aimez pas la façon dont nous parlons ici des fascistes, disons le mot, eh ben revenez pas, s'il vous plaît, vraiment. Un autre mot.
On pourrait encore parler des élections de Trump. Ce qu'on se disait sur la scission en fait qu'on a très forte aux États-Unis en fait, ouais. entre vraiment les pays du Sud et enfin
les États du Sud. Mais c'est assez notable.
Les États du Sud et les États du Nord, une scission qui comme on disait date de la guerre de sécession, mais qui encore aujourd'hui marque un peu le clivage entre démocrates et républicains aux États-Unis.
Ouais.
J'ai entendu un gouverneur d'un État républicain très marqué à droite et qui disait que si Trump perdait, il faudrait faire une fédération des États républicains contre les États.
Ils veulent refaire une guerre civile, quoi.
C'est ça. Rien ne va dans ce pays.
Non, mais et puis on se rend pas compte ici, mais ça a été vraiment tendu aux États-Unis pendant les élections.
Bien sûr,
groupes armés vraiment c'est qui ça. Se préparaient à l'insurrection.
C'est tendu, c'est très tendu.
On avait beaucoup de personnes civiles. Il faut savoir que la population américaine n'a jamais été autant armée.
Oui, bien sûr. Évidemment.
Donc c'est pour vous dire à quel point c'est tendu et à quel point les gens sont prêts là-bas à se battre si pour ce qu'ils croient. Et c'est pas pour la vérité, c'est pas pour l'union, c'est vraiment pour leur croyance. Encore une fois, c'est ça qui est affolant, c'est qu'on entre dans une ère de la croyance et plus dans une ère de la vérité. C'est pour ça qu'on parle d'ère post-vérité. Tu peux être amené à te battre pour vraiment du vent, en fait. C'est ce que Trump propose, en fait, c'est de se battre pour du vent, contre de l'invisible.
Mais Merci de nous avoir écoutés pour ce mardi. Dans un instant, sur Radio Campus Tour, les improgrammables. Les improgrammables. J'arrive pas à prononcer.
À dire.
J'arrive pas à prononcer les R depuis.
C'est comme tout à l'heure assimilé.
Et sur Radio Campus Orléans, normalement, on aurait dû avoir Ride On Me. Ils ne sont pas là ce soir, mais on termine quand même avec un morceau. Un peu de rap avec une nouveauté. Ils sont néo-zélandais. Ils mélangent, mais agréablement. Vous allez écouter ça, vous allez entendre du reggae, du jazz, du funk, tout. Ils s'appellent Fat Freddy's Drop. Voici Next Stop pour terminer cette émission. Passez une belle soirée, une belle semaine et à mardi prochain. Ciao. No, we never get tired of this. No, we never get tired. Sun up to sun down. Got to keep working it. Sun up to sundown. Got to keep working it. No, we never get tired of this. No, we never get tired. No, we never get tired of this. No, we never get tired. Walk through the fire. Been through hell. Body was tired. Speed.